Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui me donne le plaisir d'accueillir Sophie Péder, journaliste chef de bureau de The Economist à Paris et auteur du Déni français paru chez Jean-Claude Lattès avec un sous-titre qui illustre parfaitement le thème « Les derniers enfants gâtés de l'Europe ». Chère Sophie, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre publication n'a pas manqué de susciter un grand intérêt médiatique, des irritations fortes, de la classe politique en particulier. Et ceci a été vécu comme une forme de provocation dans un contexte de rigueur qui excite le corps social. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre antenne, d'accueillir une consoeur éminente, journaliste. Et vous avez en effet reçu le prix David Watt qui récompense le meilleur article politique de l'année en 2006. Vous êtes anglaise, ce que trahit à peine une fond d'accent ou un reste d'accent.
Je pense que ça reste quand même assez audible.
Un tout petit peu. Et vous avez un look très britannique qui, à bien des égards, nous rappelle quelqu'un, nous français, que nous avons absolument adoré, qui était Petula Clark. Donc tout ceci est placé. Mais c'est pas la même chansonnette que vous déclamez. Sous ses boucles blondes, on retrouve la force d'une professionnelle qui a été diplômée d'Oxford et de l'Université de Chicago. Vous êtes fait donc connaître par ailleurs par un large public et les médias avec la couverture de votre journal en avril dernier, où vous mettiez en première page, en scène, une reproduction du dîner sur l'herbe de Millet, suggérant une connivence entre le déni des deux candidats. Et donc, vous récidivez avec cette nouvelle parution qui est, elle aussi, plébiscitée par les médias, en tout cas en termes d'intérêt. Et votre thèse s'inscrit dans la tradition éditoriale de votre journal, qui est un défenseur du libre-échange et de la liberté des marchés, et qui a la réputation d'une grande rigueur intellectuelle et d'objectivité, comme celle d'ailleurs du cercle de l'Institut Montaigne, auquel vous appartenez, ou en tout cas avec lequel vous collaborez, si j'ai bien compris. Vous soutenez donc que la classe politique française, depuis 30 ans, et singulièrement dans la récente campagne qui vient de française, a caché la réalité économique par manque de courage, et en entretenant de ce fait les Français dans une forme d'infantilisation, d'enfant gâté et de déni, avec des conséquences désastreuses pour son avenir et sa place dans le monde. Alors, pour donner l'ambiance, je vais donner un extrait du début de votre ouvrage, page 13. Je lis donc « Suite à une campagne électorale marquée par la rêverie et l'esquive, l'heure est maintenant à une politique de rigueur qui n'ose pas dire son nom. À entendre le nouveau gouvernement, le pays s'est embarqué dans un redressement fondamental des comptes publics, dans un sérieux budgétaire qui se ferait sans austérité, sans coupes sauvages dans les dépenses et sans douleur pour les classes moyennes, sans parler d'une amélioration de la compétitivité, sans effort important. Bref, un redressement sans aucun sacrifice. Le déni a changé de nature, mais il existe toujours. » Alors, quelle est cette nouvelle forme de déni ? Première question.
Je pense que le déni existe actuellement à propos de l'ampleur de l'effort qui sera demandé un jour ou un autre à tous les Français pour redresser le pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas simplement une question de tenir un engagement vis-à-vis de la réduction du déficit budgétaire, c'est déjà quelque chose qui est difficile, mais c'est une question de retrouver la compétitivité du pays pour permettre à la France, et que c'est ce que je souhaite très sincèrement, de garder sa place, de garder son rang et de pas se retrouver dans un déclin dans l'avenir. Quelle est la nature de cet effort? C'est une question de regarder le système qui a très bien servi la France dans les années d'après-guerre et jusqu'au milieu des années 70. Mais c'est un système qui est devenu trop lourd, trop coûteux, qui repose sur une dépense publique trop élevée et qui est en train de freiner la croissance du secteur privé. Et si la France ne sait pas confronter les tabous dont, par exemple, les inconvénients dans un modèle social qui avait des atouts et qui a des atouts, mais les inconvénients et le coût de ce modèle social, le pays est malheureusement condamné à un long déclin.
Voilà. Alors, on comprend que ce type de message, dans l'introduction de votre livre, ait été reçu d'une façon un petit peu mitigée et que vos détracteurs aient pris le parti de considérer qu'il s'agissait d'un mauvais coup de la perfide Albion. Mais c'était probablement ignorer beaucoup que, en fait, vous adorez la France, vous y vivez, vous y travaillez depuis de nombreuses années et vous avez choisi d'y élever vos enfants dans des écoles françaises. Et par ailleurs, vos compétences sont incontestables. Alors, je lis page 25 pour bien montrer que vous avez cette foi dans notre doux pays, dans notre doute France. C'est un pays magnifique, page 25, et c'est précisément pour tirer le meilleur parti de tous ses atouts et conserver au mieux son modèle que le pays devra évoluer. Donc, il n'y a pas photo, comme on dit aujourd'hui, vous aimez la France. Mais vous avez donc, c'est un véritable réquisitoire contre la situation actuelle. De l'autre côté, vous adorez la France. Donc, est-ce qu'on peut considérer que ceci rejoint l'adage de César, « Bene abbat, bene castigat », qui aime bien, châtie bien. Est-ce que c'est un peu le sens de votre message ?
Je pense que c'est un peu ça. Et je veux vraiment souligner le fait que vous avez évoqué, c'est que j'aime bien ce pays. J'ai des enfants qui ont la double nationalité. Donc, je me sens concernée par l'avenir de ce pays aussi. Ce n'est pas pour critiquer pour le plaisir, ni pour le détruire. C'est vraiment une critique, si c'est une critique un peu sévère, je l'ai voulu constructif. Et parfois, je pense que c'est peut-être plus facile pour un étranger ou une étrangère d'apporter ce regard un peu extérieur et parfois de dire des choses dans le milieu très franco-français sans pas évoquer. C'est parfois des tabous. Si je pose la question, est-ce que c'est vraiment un modèle social qui fonctionne très bien et où chaque dépense est efficace, chaque dépense publique est efficace? J'ai l'impression parfois qu'on ne pose pas ces questions. Le principe, c'est que c'est un modèle social qui fonctionne bien et donc toute dépense est justifiée. Et je pense que parfois, un étranger peut avoir un regard un peu plus, si c'est pas objectif, juste un peu plus frais et moins...
pris par le système.
Moins pris par le système, c'est exactement ça.
Voilà. Parce que, effectivement, d'autres personnalités, elles, françaises, ont regardé la France et son modèle social, son modèle tout court, et l'ont traduit en étrangeté française. C'est notamment le cas de Philippe Diribarn, que vous connaissez sans doute, qui est un sociologue très, très réputé. Mais ce qui est frappant, c'est que finalement, les Français savent qu'ils sont étranges, que c'est dans une nation étrange, mais par contre, ils considèrent que c'est un atout. C'est-à-dire que cette étrangeté est en fait une différenciation qui fait partie de la culture et qui, en fait, jusqu'à présent, leur permettait d'être un peu l'exception dans le monde. Alors effectivement, le regard que vous portez est décalé par rapport à ces certitudes. C'est aussi la raison pour laquelle c'est peut-être un peu difficile pour... le prendre complètement en compte, en tout cas pour le grand public et les politiques qui, eux, se trouvent très concernés par vos remarques. Alors, si vous voulez bien, on va en venir un peu plus au fond. Vous touchez à peu près à tous les sujets, hein, de la compétitivité, au modèle social, etc. Mais si vous aviez à retenir deux points d'extrême fragilité, quels seraient ces deux points principalement ? On parle beaucoup de compétitivité aujourd'hui, mais j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage un passage sur... les dépenses publiques et notamment les dépenses sociales, mais ce qui est superflu, ce qui est gâché dans les dépenses sociales. Les dépenses sociales en soi, c'est pas un mal, c'est même plutôt un bien, mais vous expliquez que nombre de ces dépenses sociales ou périphériques sont totalement inutiles et excessives.
Ce que j'ai essayé de faire, c'était d'avoir un regard pragmatique. C'est-à-dire, plutôt que de dire le système est très bien, il est bien conçu, est-ce que c'est un système qui produit le résultat qu'il faut, qu'il faudrait? Parce que si on va prélever autant des Français, si on va dépenser autant d'argent public, il faut regarder le résultat. Et ça, j'ai essayé de faire secteur par secteur. Et dans certains domaines, je pense que la dépense publique qui est très élevée en France, 56% du PIB, oui. C'est plus élevé même que la Suède. Et c'est un pays qui est également un état-providence très fort. Mais même en Suède, ils ne dépensent pas autant. Le secteur public ne dépense pas autant qu'en France. Dans certains domaines, je considère, après avoir regardé les chiffres et le résultat, c'est très performant. Je pense notamment à la politique familiale. Vous avez un système de crèche de maternelle formidable en France, qui permettent aux femmes, par exemple, de retourner au travail après la naissance d'un enfant. C'est un atout pour la France. Et on voit ça dans non seulement le taux d'emploi des femmes dans le marché du travail, mais également dans le taux de natalité. Et c'est un atout pour la France. L'Allemagne ne connaît pas du tout ce
bien
même atout.
Bien
donc,
bien
vous savez très bien que le problème démographique de l'Allemagne, ça sera un inconvénient pour son avenir. Mais dans d'autres domaines, c'est contestable que la France, avec une dépense plus élevée que les autres, obtient un résultat meilleur que les autres. Et par exemple, on va juste prendre l'exemple de l'école. L'éducation nationale consomme plus dans le public que dans d'autres pays, notamment les pays scandinaves, sans avoir meilleurs résultats dans les scores PISA qui sont mesurés chaque année par l'OCDE. La France est dans la moyenne. Mais on ne peut pas dépenser plus que les autres, avoir un résultat dans la moyenne. Et tout le monde connaît le chiffre de jeunes qui sortent de l'école chaque année sans diplôme du tout. Donc je pense que là, en examinant chaque secteur comme ça, mon objectif, c'était au moins de poser la question, est-ce que la dépense élevée en France
est justifiée
et efficace ? Plutôt que de commencer avec le principe que le modèle social fonctionne.
D'accord, très bien. Alors justement, le modèle social français veut très souvent s'inspirer des modèles scandinaves, le Danemark et plus particulièrement, vous le disiez tout à l'heure, de la Suède. Alors, vous expliquez dans votre ouvrage que la Suède a été confrontée dans les années, je crois que c'est 1990, c'est à peu près ça, quoi, hein, à une situation qui était assez voisine de la France, donc avec un déficit public énorme, etc. Et donc, aujourd'hui, la France est à un niveau de dépenses publiques à peu près similaire à celui de la Suède, qui, elle, a retrouvé à travers le plan qu'elle a mis en place, au bout de 3-4 ans, hein, si je me souviens bien, des équilibres en prenant un certain nombre de dispositions. Alors, est-ce qu'on peut s'inspirer de ces dispositions et quelles sont-elles ? Enfin, quelles sont les dispositions qu'on pourrait prendre en s'inspirant du modèle suédois dont on reconnaît les vertus sociales et par contre un peu moins les efforts de redressement lorsqu'il a fallu les faire ?
C'est très intéressant ce qu'a fait la Suède. Parce qu'ils ont été confrontés à une crise. C'était pas exactement la même que la crise qui frappe la France actuellement, parce que c'était une crise d'abord bancaire. Mais c'était quand même un pays qui avait un déficit qui frôlait les 10%, une récession des années consécutives très fort, une montée de chômage également très élevée. Mais ce qu'ils ont fait, les Suèdes, sous la gauche et ensuite sous la droite, c'est très intéressant parce que c'est bipartisan dans ce sens-là, c'était de regarder justement chaque dépense avec la question suivante. Est-ce que cette politique que nous, le secteur public, on soutient financièrement, est-ce que ça encourage l'emploi ou pas? Et c'était vraiment cette question-là qui les a amenés à tailler dans les dépenses. Par exemple, comme en France, ils ont une politique familiale très forte qui soutient l'emploi. Et ils n'ont pas touché ça. Donc c'était exprès. Par contre, quand il s'agit des allocations de chômage ou des pensions de retraite, là, ils ont fait des réformes vraiment assez dures. Pas toujours facile à vivre pour les Suédois. Mais l'objectif était toujours le même principe, encourager le travail. Juste pour vous donner un petit chiffre, c'est très intéressant. Le pourcentage de personnes âgées de 55 à 64 ans qui sont toujours au travail en Suède est de 71%. En France, c'est 40%. Ouais. Donc, on voit déjà dans ce domaine-là le résultat de cette politique. Et je pense que c'est ça. C'est pas une question de tailler dans les dépenses de façon aveugle, c'est absurde. Mais avec un objectif...
De retour sur investissement, en quelque sorte.
Exactement. Et de retour en termes d'emploi, de création d'emploi et de dynamique dans l'économie.
Ceci, vous parliez d'encouragement et de découragement, donc sur le marché du travail. L'autre sujet, on a déjà parlé depuis un petit moment, mais je voudrais vous emmener quand même sur ce terrain, qui est celui des relations de la France avec les entreprises, avec les entrepreneurs. On voit que dans les pays qui réussissent le mieux, l'Allemagne, le Danemark sur d'autres sujets, Danemark étant un tout petit pays sans ressources et sans rente particulière, ces deux pays ont placé culturellement l'entreprise au centre du défi social et du corps social. Est-ce que vous avez l'impression que la France prendra un jour ce type de chemin ?
Je l'espère parce que je suis d'accord qu'il y a un problème culturel entre l'opinion publique et les entreprises. Et les créateurs de richesses de façon générale. Ouais. Et c'est très dommageable pour l'économie parce que la France a pas mal de petites entreprises et des très grands groupes dynamiques, des marques connues mondialement.
Des champions.
Mais ce qui manque des champions du monde, ce qui manque, c'est des entreprises de taille intermédiaire. C'est le Mittelstand allemand. Et je pense qu'une des raisons, c'est pas le seul, mais une des raisons, c'est justement une politique depuis des années qui décourage les entreprises à grandir. À cause des effets de seuil dans la réglementation d'une entreprise, c'est très frappant en France qu'il y ait beaucoup d'entreprises avec un effectif de 49 personnes.
Tout à fait.
Parce qu'à partir de 50, toute une série de réglementations s'applique à l'entreprise. Et tout ça, c'est avec une intention de protéger les employés. C'est très noble, mais la conséquence, c'est que les entreprises en France ne grandissent pas. Et donc, je pense qu'il y a tout un effort, un travail à faire auprès des Français, auprès de l'opinion publique pour essayer de les convaincre que l'avenir du pays, la création d'emplois, c'est dans les entreprises, les petites entreprises et les entrepreneurs. Et il faut surtout les encourager, pas les décourager en permanence et les stigmatiser.
Croisons les doigts pour que votre message soit entendu en France et au-delà. On va terminer par deux types de questions très rapides. Une sur l'actualité, mais vous m'avez déjà à moitié répondu, parce que j'imagine que vous allez placer ce thème de la compétitivité sous l'aune de votre approche générale. Le débat coût hors coût, prix hors prix, est-ce pas une façon encore pour nous, Français, de reculer l'échéance ?
J'espère que ce rapport de M. Gallois, qui sera publié le 5 novembre, j'espère que c'est quelque chose qui va pas être mis sur un étagère et puis oublié. Parce qu'il me semble que la France, une des forces, c'est que vous avez depuis des années produit des rapports excellents de la commission Attali, là, le rapport de Michel Pébro.
12 rapports, je crois.
Beaucoup de rapports qui sont excellents chacun, mais qui sont rarement appliqués. Et si j'ai bien compris le message de M. Gallois, qu'il faut un choc de compétitivité pour remettre le pays sur la bonne route.
Et pas simplement qu'une trajectoire qui, elle...
Une trajectoire, parce que les choses sont trop graves pour ça. On a passé le temps pour pouvoir juste faire des petits aménagements. M. Gallois, au mois de juillet, a parlé d'un choc entre 30 et 50 milliards d'euros.
2% de PIB, en gros.
Et c'est ça. Et sans un choc de ce style, je pense qu'il ne sera pas possible d'arrêter ce long déclin et cette perte de compétitivité, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Et c'est ça l'ambition de la France, n'est-ce pas ? C'est pas de se consoler en regardant, je sais pas, l'Espagne ou l'Italie ou les problèmes en Grèce, mais c'est de rester un grand pays européen comme l'Allemagne et d'avoir une performance économique comme l'Allemagne. Et ça, je pense, ça devrait être l'ambition pour ce pays.
C'est un beau plaidoyer pro domo, hein, pour une Anglaise qui plaide pour la France, et j'adore. Mais dernière question, un peu plus perfide, mais en deux mots aussi, l'Europe. Alors l'Europe, il y a la position anglaise, il y a la position de la France qui dit que finalement elle a voté un budget européen très différent du précédent. Ces rapports avec l'Europe sont compliqués des deux côtés de la Manche. Hein. Comment voyez-vous les choses évoluer ? Est-ce que du côté de l'Angleterre, vous voyez des évolutions possibles ? Et comment vous interprétez ce couple ?
Je pense qu'on a, pendant un moment, sous-estimé le niveau de euroscepticisme au sein du Parti conservateur et du gouvernement de David Cameron en Angleterre. Parce qu'au début, c'était pas très visible ni apparent. Maintenant, je pense, depuis la fin de l'année dernière, je pense qu'on commence à comprendre que c'est vraiment très profond. Personnellement, ça me désole, mais je pense que c'est inévitable que la Grande-Bretagne va prendre ses distances de plus en plus avec cette Europe de 17 ou une Europe plus intégrée. Le Parti conservateur, je pense, le considère presque comme un prétexte pour prendre ses distances. Parce que dans le passé, les Britanniques ont toujours contesté l'intégration de l'Europe. Maintenant que c'est une réalité et presque la même solution pour la zone euro, je pense que ça risque de devenir pour le Parti conservateur un prétexte justement pour dire « Allez, vous faites ce que vous voulez, nous, on va se mettre en retrait et potentiellement même nous retirer complètement. »
Oui, donc les soubresauts sur l'Europe ne sont pas finis selon votre vision. Sophie, donc, c'était un grand plaisir de vous recevoir sur notre antenne. Je vais conclure en vous citant une nouvelle fois. Je rappelle que ce livre est particulièrement bien écrit et très aéré et très agréable à lire. Et je dirais deux choses. Une citation que je ne sais plus à quelle page, mais vous avez écrit la chose suivante. Au risque électoral, en parlant vrai, les candidats de la classe politique ont préféré implicitement le risque de la déception et du déni. Voilà déjà une première chose. Et puis maintenant, deux éléments qui résument un petit peu votre thèse, les deux facettes de votre thèse. Les Français sont les derniers enfants gâtés de l'Europe. La génération qui a profité le plus, surtout en matière de retraite, est celle née entre 1945 et 1960. Je me sens un petit peu visé là. La génération qui paiera est celle des enfants d'aujourd'hui. Quelle trahison de l'esprit de solidarité auquel les Français se disent si profondément attachés. C'est un modèle non seulement insoutenable à long terme à cause de la dette qui en découle, mais un modèle à bout de souffle. Et vous ajoutez un peu plus loin, c'est un pays magnifique et c'est précisément pour tirer le meilleur parti de tous ses atouts et conserver au mieux son modèle que le pays devra évoluer. Bravo, c'était remarquable. Je rappelle donc cette parution. Sophie Péder, Le déni français, les derniers enfants gâtés de l'Europe, chez Jean-Claude Lattès. 187 pages, 14,80 €. Encore bravo et au plaisir de vous retrouver sur notre antenne.
Un très grand merci à vous.